Bonsoir. La situation humanitaire, sociale et psychologique des habitants de Calais au sud Kivu reste très préoccupante une semaine après les inondations qui ont frappé plusieurs villages dans le territoire de Calais. Chaque jour qui passe, des nouveaux corps sans vie sont découverts dans les décombres, a constaté mardi 9 mai le reporter de Radio Okapi. Le bilan de la catastrophe s'est alourdi. Il est passé à ce jour des 412 à 438 morts, avec 26 corps retrouvés mercredi 10 mai, selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lors d'une conférence de presse conjointement animée hier mercredi à Kinshasa avec son collègue de l'aménagement du territoire. Le porte-parole du gouvernement appelle la société civile et l'ensemble de la population à un esprit de solidarité pour bien gérer les conséquences de ce drame. Comment analyser cette situation et que faire pour résoudre ce problème humanitaire dans le territoire de Calais? Nous en parlons ce soir avec Vital Mouini Banisuizé, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il est élu de Calais et a fait partie de la délégation gouvernementale qui s'est rendue dans ce territoire mardi dernier. Il est avec nous dans ce studio. Monsieur Vital Mouini, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Delphin Birimbi, président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais au sud Kivu. Delphin Birimbi, bonsoir.
Bonsoir, madame. Mes condoléances encore à toute la population de notre cher territoire de Calais.
Yvan Edoumou, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment, il est chargé de communication du bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. En sigle, à Bukavu, au sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radioocapi.net.
Province du Sud Kivu, en rapport avec la catastrophe de Calais, le gouvernement provincial appelle à la mobilisation générale en faveur des sinistrés. Pour le gouverneur du Sud Kivu, quel que soit le niveau d'intervention du gouvernement central, les besoins de la population de Calais restent intacts. Théo Ngwabidje Kassi s'est exprimé à Niamoukoubi. On l'écoute au micro d'Emmanuel Elamegi.
C'est une catastrophe naturelle. Donc le plus important est que le gouvernement central et surtout le chef de l'État a montré son amour pour cette population. Mais il faut que tout le monde vienne nous aider. Si ça s'est passé hier, ça aurait donné quelle mobilisation? Je veux aussi cette même mobilisation pour cette province qui est sinistrée aujourd'hui. Il n'y a pas que le président de la République. C'est aussi une occasion de sensibiliser toutes les personnes de bonne volonté et la communauté internationale. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Plus de 400 morts. Et ce bilan n'est que provisoire. Où est la communauté internationale? Il faut que les gens se mobilisent autour du gouvernement central qui a pris ses responsabilités. Et nous, nous avons à commencer le gouvernement provincial. Voilà. Moi, je voudrais plutôt le rendre hommage au personnel soignant, aux médecins, aux secouristes qui ont bradé les risques pour sauver les vies humaines, mais aussi s'occuper et enterrer dignement et d'une façon sécurisée les populations. C'est une catastrophe. Donc, je tiens à dire merci à toute la population, surtout à tous les secouristes. À vous tous aussi, les hommes des médias, passe la bonne information. Restons mobilisés face à ce sinistre et à cette tragédie qui a frappé les territoires de Calais.
Vital Mouini, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes élu de Calais. Vous avez fait partie de la délégation gouvernementale qui s'est rendue dans ce territoire mardi dernier. Quel est le constat que vous avez fait sur place, monsieur Mouini?
Exact, madame. Je fais partie de la délégation. Le constat est très amer. Les chocs traumatiques est au-dessus du seuil. Et ce qu'on a trouvé là-bas, c'est invivable. Je suis quinquagénaire, je suis né, je vécu là-bas. Depuis des années et des siècles, nous ne l'avons jamais vécu. Je fais seulement résumer que la nature qui a été agressée nous a donné son feedback. Et nous avons perdu beaucoup d'êtres qui nous sont très chers.
Qu'est-ce que vous entendez par la nature qui a été agressée, nous a donné son feedback?
Oui, je reconnais plus ou moins qu'il y a eu déboisement, déforestation, des collines et des montagnes qui surplombent le village de Niamoukou, le village de Bouchouchou, avec ses trois sous-villages. Et je continue à croire, j'ai la vive conviction que c'est de ce déboisement que nous viennent ces catastrophes. Parce que dans l'État, quand nous sommes nés là-bas, nous y avons grandi, il y avait tellement de forêts, il y avait tellement d'arbres. Il y a même des babouins et des singes qui venaient visiter les gens qui venaient au niveau de moi. Je les ai vus quand j'étais tout jeune. On ne peut plus les avoir. On a déforesté systématiquement.
On sait qui ?
Je veux dire la population. D'abord, au départ, c'est en 1994. En 1994, il y a des réfugiés rwandais, nombreux, en milliers, au-delà de 50 000 ménages, qui étaient autour, qui étaient localisés autour des Bouchouchou. Et en ce moment-là, comme bois d'échauffe, le HCR devait payer du bois et le bois était devenu un business. Et ça coûtait cher. Ça nous donnait de l'argent à ce moment-là. Malheureusement, on avait déboisé systématiquement. On a pris reboisé. Et c'est qu'on donne sur le feedback ce que j'ai dit, madame. Et je vous dis en même temps que c'est chaque mois, 6 000 sacs de braise sortent de ces coins là-bas. À destination des Goma, à destination au sud de Bukavu, des villes qui nous environnent. Et le reboisement ne suit pas. Et c'est pourquoi j'ai dit bien, la nature a été agressée, la nature n'est pas chrétienne, la nature a donné son feedback. Quand la nature a encaissé, elle doit aussi décaisser. C'est normal que nous soyons arrivés à cette situation catastrophique.
C'était prévisible donc.
Je ne peux pas dire que oui, c'est, on peut dire d'une manière indirecte, prévisible et imprévisible en même temps. Parce que personne ne savait que, qu'il pleuvrait à ce moment-là, que c'est à ce moment-là que la nature pouvait se déchaîner. Mais tout au moins, on sait qu'il y a quand même d'autres catastrophes antérieures, parce qu'on en est à la 6e catastrophe. Ça signifie qu'il y a des dispositions qu'on aurait dû prendre bien avant. Mais malheureusement, comme nous sommes un territoire montagnier, nous sommes autour du lac Kivu, nous avons les chaînes de Mont Mitumba, des montagnes, des catastrophes existent partout. Ce qui nous est arrivé, c'est naturel, ça nous arrive.
Vous avez fait partie de la délégation gouvernementale qui s'est rendue dans ce territoire mardi dernier. Le bilan de la catastrophe s'est alourdi. Il est passé à ce jour de 412 à 438 et des milliers de personnes qui sont sans abri. Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement à cette population?
Ce que nous avons apporté d'abord, c'est le gouvernement central a pris ses responsabilités. Il faut avouer que d'abord le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété un deuil national qui a été observé, une façon de compatir avec cette population. De lui-même, je vous annonce, madame, que c'est un millier de catastrophes. Nous avons des catastrophes au niveau de la terre, malheureusement sur montagne. Nous avons aussi des catastrophes au niveau sur les lacs aussi. Le chef de l'État, lui-même, en 2019, s'est rendu sur place quand il y avait aussi catastrophe. Il a décrété le deuil. Il a envoyé aussi trois ministres sectoriels. Et j'ai fait partie aussi de cette délégation. C'est-à-dire, ce qu'on leur a apporté d'abord, c'était pour un réconfort moral, notre présence d'abord. Deuxièmement, il fallait absolument participer à l'enterrement des morts. Même sur les émaux, quand ils sont morts, nous sommes obligés de les enterrer. C'est pourquoi on a mené un lot de cercueils et de vivre tout ce que avec quoi on peut consoler une population. Nous avons amené ce qui est à la hauteur des moyens qu'on nous avait donnés.
Selon plusieurs habitants de Calais, cette aide est vraiment insuffisante.
Oui, exactement, au regard des besoins immenses. Mais je sais que c'était juste la première intervention humanitaire du gouvernement central. Le gouvernement provincial s'était aussi déployé avec d'autres partenaires du gouvernement.
Mais ça suffit pas, c'est toujours insuffisant.
C'est toujours insuffisant.
Est-ce qu'il y aura d'autres interventions du gouvernement central?
Oui, le gouvernement central ne se limite là-bas. Il y a des questions des routes, on va y aller. Le gouvernement central n'a pas limité. Ça signifie qu'il va aussi mobiliser ses partenaires et lui-même pour aider. Et moi aussi, j'en appelle aussi à d'autres partenaires humanitaires pour vraiment secouer parce que les besoins sont vraiment immenses.
Les rescapés qui ont tout perdu nécessitent une assistance holistique. Ils ont besoin de soutien matériel, mais aussi psychologique. Qu'est-ce qu'on pense à tout ça?
Au moment qu'il fait, au moment que nous étions là, madame, nous avons vu aussi des corps. Nous en étions aussi traumatisés. Nous étions au stade d'abord de l'enterrement. Et maintenant, c'est la fouille en cours pour déterrer les corps encore ensevelis sous les boues et des grosses pierres. C'est là le stade où nous en sommes.
nous avons participé aux gens qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas, donc ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils n'ont pas, ça signifie que même les besoins essentiels des bases ne sont pas encore couverts. C'est là où on en était et le gouvernement a pallié à cela autant qu'il le pouvait à ce moment-là. Mais nous attendons encore beaucoup du gouvernement et de ses partenaires. Ça va valider.
Comme quoi vous attendez par exemple des partenaires.
Ce que nous attendons des partenaires, c'est toujours la prise en charge sur le plan sanitaire, la prise en charge psychologique, venu de le dire. Les traumatismes est très aigu sur cette population là-bas. Il y a la prise en charge par rapport aux soins médicaux, parce que nous avons suffisamment autant de blessés encore qui sont dans leur maison. Il y a des blessés qui sont dans les hôpitaux, tous sont mobilisés pour aller dans les hôpitaux. La prise en charge sur le plan alimentaire, sur le plan des soins, je voulais dire, les études des enfants, parce qu'il y a, nous avons perdu aussi des infrastructures scolaires surtout. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ont, il y a autant d'orphelins. On a vu même des bébés repêchés qui n'ont plus de mère. Donc nous attendons par exemple SOS, comment ils peuvent nous aider à récupérer ces bébés dans leurs orphelinats. Ça signifie qu'il y a tellement de besoins, madame, et on attend encore beaucoup du gouvernement et d'autres partenaires.
Ce bilan, il est encore provisoire parce que ça pourrait encore s'alourdir.
Exact, parce que nous
venions... Comme vous l'avez dit, on continue à déterrer des corps
tout à l'heure,
sous les décombres.
Oui, on venait d'enterrer encore 14 corps. J'ai causé tout à l'heure avec le chef du village, M. Rouchicha, là-bas, qui me dit qu'il y a encore information qu'il y a d'autres corps qui restent toujours ensevelis pendant que nous étions là. Nous avons vu des signaux de sang qui sortaient de la boue. Ça signifie qu'il faut vraiment fouiller systématiquement pour trouver d'autres corps qui sont encore sous les décombres. Ça signifie que le village continuera encore à s'alourdir. Ce malheureux, on en prie rien, il faut vraiment fouiller. Il y a encore tellement de choses à faire.
Alors, il y a un auditeur qui nous écrit de Calais qui dit que c'est plutôt les agences qui se préoccupent plus de la population plutôt que des autorités congolaises qui ne déploient pas des moyens suffisants pour subvenir aux besoins de la population. On reste dans des simples discours et des promesses.
Vous savez, les gens qui vous parlent peuvent prévenir la société civile, il y a des récupérateurs, mais je viens de là. Qui aura donné des moyens consistants comme les gouvernements? Et il faut avouer, madame, ça, j'adresse mes remerciements au président de la République, aussi au premier ministre, parce que c'est la toute première fois depuis que j'ai vécu des catastrophes là-bas, parce que c'est pas la première fois qu'on attribue à chaque famille 2 500 000 francs congolais. Ça n'a jamais existé. Franchement, nous devons reconnaître ce que font les autres. Le gouvernement fait son travail et je crois qu'on attend encore beaucoup de lui. C'est tout ce qu'on peut dire.
Delphin Birimbi, vous êtes président du cadre des concertations territoriales de la société civile de Calais au sud Kivu. La société civile se plaint du fait que le gouvernement n'a pas fait assez pour cette population de Calais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations de certains membres de la société civile de Calais?
Merci et je remercie encore le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui est notre fils du terroir, mais il était également, il faisait partie de la délégation du gouvernement central qui est venue sur le terrain. Je remercie tout le monde. Et je vais vous dire, madame, que tous ceux qui sont en train d'écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux n'engagent pas la société civile. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons sur la question. Ce sont des gens qui sont assis dans leur maison, en train de regarder les télés avec leur famille, qui vilipendent les fausses informations sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes sur le terrain, nous vivons toute la situation, nous repêchons le corps, et ça, on ne peut pas cautionner des bêtises pareilles que les gens vilipendent l'image de la société civile avec des tweets, avec du n'importe quoi. Madame, aujourd'hui, nous sommes déjà le mardi 9 mai 2023, on était à un bilan de 411 corps déjà repêchés. Mais aujourd'hui, madame, on a encore repêché 14 corps. Hier, on a repêché d'autres corps. On est déjà à un bilan de 438 corps déjà repêchés et plus de 5255 disparus. Nous travaillons avec la population. D'ailleurs, je vais vous dire que nous sommes en train d'encourager le gouvernement congolais avec les aides qu'il venait de faire, puisque depuis qu'on a commencé cette situation, il y a le gouverneur des provinces qui s'est rendu sur le terrain en date du vendredi 5 mai 2023, accompagné de son équipe du gouvernement central provincial. Il est venu compatir avec la population. Il a laissé même une somme pour organiser les funérailles. Ça, c'est d'abord la première aide du gouvernement provincial. En date du samedi 6 mai 2023, le notable Norbert Basingizi Kantetima a envoyé un lot de bâches, farine, haricots et bidons vides. Le dimanche 7 mai 2023, le gouverneur de province, son excellence Seongo Abije Kasi, il a dépêché une équipe sur place avec un lot de médicaments, vivres et non vivres. En date du mardi 9 mai 2023, le gouvernement central a envoyé une délégation sur le terrain composée du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui est notre fils du terroir, le président, le ministre national des Affaires humanitaires, le ministre national du Développement rural, madame le ministre national du Travail et Prévoyance sociale, ainsi que des conseillers à la primature. Ils nous ont amené une importante quantité de vivres et non-vivres, et ils ont laissé 2 500 000 francs par famille à raison de 200 familles. Et donc, ce sont là des aides du prêt du gouvernement, du prêt de différents partenaires. Même l'INC est arrivé sur le terrain avec des matelas, avec des tôles. Il y a aussi une organisation appelée HJ Foundation des Indiens qui est arrivée aussi sur le terrain et nous laissait un lot important de vivre et non vivre.
On peut dire qu'il y a une forte mobilisation pour venir au secours de ces victimes, de toutes ces victimes des inondations de Calais.
Madame, je ne peux pas dire qu'il y a une forte mobilisation compte tenu de la grandeur de la situation, mais il y a une mobilisation qui est sur le terrain et le gouvernement est fortement engagé dans la question à travers le gouvernement provincial et national. Puisque le gouvernement ne nous a pas laissé depuis le début de la catastrophe jusqu'à maintenant, le gouvernement est en train d'intervenir.
Delphin Birimbi, le bilan est en train de s'alourdir. La population a besoin d'aide psychologique, sociale. Est-ce que sur terrain, on observe la présence des humanitaires?
Madame, la population de Calais, précisément dans le village de Bouchouchou, Tchabondo, Nyamukubi et Kabushungu, a besoin d'une mobilisation générale de tous. Les humanitaires sont arrivés sur le terrain, ils sont en train d'évaluer les besoins. Il y a même la fondation de la première dame de la République qui venait d'arriver sur le terrain cet avant-midi. Il est en train de travailler avec les humanitaires qui sont aussi sur le terrain pour évaluer les besoins urgents des populations dans l'objectif de voir comment ils pourront apporter une assistance. Mais au moins, les besoins sont vraiment imminents. Puisque nous n'avons pas de latrines, il y a des sources d'eau potable qui ont été fortement supprimées, comme je le disais, il y a des écoles, et même la nuit aujourd'hui, madame, il y a une forte pluie qui a failli encore emporter même les restes de la population de Nyamukubi. Et donc, nous avons demandé au gouvernement de faire tous les moyens possibles pour essayer de chercher un site provisoire où on peut délocaliser d'abord nos frères de Nyamukubi et Bouchouchou, en attendant qu'il y ait une solution définitive à l'ère de localisation. Et dans le site provisoire où nos frères seront délocalisés, ça doit nécessiter qu'on construise des latrines, ça doit nécessiter qu'on construise également les sources d'eau potable, mais aussi les besoins urgents, même si les humanitaires se mobilisent, c'est d'abord la réhabilitation de la route d'une manière urgente, RND Bukavu-Goma, les tronçons Luzira, Nyamukubi, Bouchouchou, Nyabibu, chez les Français, Nyamishonga, Makengere, Mukwija, Kinyezire, Hundu, Nyamasasa, Makelele et Opo Buganga. Et sur la RN3, le parc national de Kahuzi-Biega, Bitale, Bulambi, Kahombo, pour faciliter les humanitaires qui sont en train de venir avec les différentes aides dans le sens d'accéder facilement dans ces entités citées. Surtout aujourd'hui, les gens sont en train d'affecter des pirogues, des Bouchouchou jusqu'à Nyamukubi, avec des risques que les gens peuvent encore se noyer sur cette partie du territoire. C'est pourquoi la réhabilitation des routes serait vraiment un besoin urgent pour essayer de pallier à certains problèmes à ce qui concerne la résolution des besoins urgents des populations.
Vital Mouhini, pourquoi la population n'a pas été délocalisée? Vous avez suivi Delphin Birimbi. Oui. Hier, on a failli perdre encore notre compatriote. Qu'est-ce qu'il faut pour délocaliser cette population?
Madame, en termes de solutions,
la solution la plus durable reste la délocalisation de cette population sur des sites, parce que il y en a quand même, tous les villages n'est pas invivable. Il y a des endroits vivables et d'autres qui sont invivables. Le vrai plaidoyer, c'est vraiment la délocalisation. Et on en a parlé. Et sur place, s'il vous plaît, avec l'équipe gouvernementale, nous avons répertorié les propriétaires terriens. Et nous avons chargé le gouverneur de les appeler. Parce que nous n'avons pas besoin de vastes étendues inoccupées, inexploitées, pendant que la population s'émerge. La grande ressource à protéger, c'est vraiment la population. Et j'en ai appelé à la population, je le répète, demander à la population de quitter, vraiment de quitter les endroits où ils peuvent mourir. Les endroits où ils ne peuvent pas avoir la vie sauve, il faut absolument les quitter parce que la RDC, quand même, madame, c'est 2 345 000 km². Nous sommes d'une culture de proximité où chacun, le Moutou, veut toujours habiter à côté de son frère. On ne refuse pas, mais de toutes les façons, là où on doit trouver la mort, il faut franchement délocaliser et c'est la solution la plus urgente. Et pour votre information, le gouvernement est représenté localement. L'administration locale, la chefferie, a déjà ciblé un coin. C'était un ancien aérodrome qui appartient à l'État. Autour du bureau du territoire, il y a aussi des espaces qui appartiennent à l'État. Là, on ne va pas exproprier quiconque, on va amener les gens là-bas. Et aussi, s'il s'agit d'une expropriation pour des faits d'utilité publique, ça peut s'autoriser et on peut le faire pour sauver cette population dont on a besoin. Donc, c'est vraiment un besoin.
Et cela pourrait se faire quand? Est-ce qu'on peut avoir une idée?
L'idée, on est pris...
Vous avez demandé de répertorier...
Les propriétaires terriens.
Les propriétaires terriens, vous l'avez demandé au gouvernement provincial de le faire.
Oui, nous avons même participé parce que nous avons ciblé des champs entiers qui existent, mais des champs exploités et non exploités autour de là, pour causer, n'est-ce pas? Il faut vraiment causer avec les propriétaires parce qu'ils ont des contrats d'amphithéose. Même une amphithéose, on peut casser ça pour raison des vies humaines. C'est-à-dire, il y a des liens où on peut délocaliser cette population. Je crois que le gouvernement va s'activer à le faire, parce que c'est d'abord le véritable besoin.
Mais une semaine après, cette population est toujours sur place, dans les villages où il y a eu des inondations.
Disons ceci. Là, on sur les sites où il y a eu inondation, tout ce qu'on a connu. Il n'y a plus de population parce que c'est déjà invivable, c'est comme un désert. Si vous arrivez là, madame, vous serez étonné. Et donc, sur ces coins là-bas, de toute façon, la population s'est rendue. Les gens se sont rendus dans d'autres familles, ils se sont logés par d'autres. Je vous dis, moi-même, ma famille a un chat là-bas, où les gens eux-mêmes ont amené, ils ont érigé des bâches là-bas pour y vivre momentanément. Mais nous devons absolument délocaliser parce que, madame, nous sommes à la 6e catastrophe, je vous disais. Nous sommes à la 6e catastrophe. Si cela peut encore nous arriver, ça deviendra un choix. Ça deviendra une fois parce que le danger est imminent, le danger est déjà là, nous devons absolument le fuir. C'est ce que je disais à la population de quitter, c'est pourquoi je répète ces mots là-bas, quitter, tout simplement.
On va prendre les auditeurs qui sont nombreux à appeler sur le standard. On va se rendre à Kolwezi dans la province du Lualaba pour écouter cet auditeur qui appelle.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Cette situation qui reste préoccupante dans cette partie de la République est loin de servir de leçon aux autorités congolaises. Comme d'habitude, ce sont des agences humanitaires des Nations Unies qui se préoccupent plus. Les autorités congolaises ne déploient pas des moyens suffisants pour subvenir aux besoins urgents de la population. On reste dans des simples discours à Kinshasa. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Il est possible de prévenir ce genre de catastrophes pour limiter les dégâts. Quand on sait qu'on n'a pas de moyens, on prend des dispositions pour éviter de courir derrière les événements.
Monsieur Vital Mourini, oui. Comment vous réagissez au propos de cet auditeur de Kolwezi?
Bon, cet auditeur n'a pas l'historique de ces coins. Il parle des Nations Unies. Je viens de vous dire. Moi, si on me demande parmi les premiers responsables, il y a les conseils pour les réfugiés. Ce sont eux qui ont acheté les bois pour tous ces réfugiés qui étaient là. Ils ont contribué au déboisement systématique. Mais le reboisement n'a pas suivi. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment partager la responsabilité. Quand on dit que le gouvernement ne s'emploie pas à faire quelque chose, c'est faux. Mais il faut avouer que nous avons des limites aussi. Je ne peux pas dire que le gouvernement fait tout.
Mais il y a quand même des besoins. Et les partenaires du gouvernement, on peut toujours compter sur. C'est-à-dire que ce sont des responsabilités partagées, ce que je peux dire.
La réalisation me signale qu'elle n'arrive pas à joindre Yvon Edoumo, que nous vous avons annoncé en début d'émission, qui est chargé de communication du bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchad. À la place, nous avons Monsieur Pierrot Nkoji, chef de bureau de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, une ONG qui collabore avec le HCR dans le domaine humanitaire. Monsieur Pierrot Nkoji, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, vous intervenez aussi à Calais pour venir en aide à cette population victime des inondations. Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Merci pour la parole. Je voudrais d'abord dire que, après les événements tragiques qui sont passés à Calais, donc à Bouchouchou et Niamoukoubi, il y a eu une première intervention rapide, comme on peut dire, de la part de certaines organisations humanitaires, pas seulement les Nations Unies, comme l'a dit l'autre intervenant. Donc il y a aussi des associations locales qui interviennent dans la zone. Et donc là, une équipe est là-bas depuis lundi de la CONAFOD avec 14 organisations nationales pour évaluer la situation et donner le premier, la première intervention qui est tout à fait médical d'abord, en termes de, d'intervention réelle, et évaluer, mais et aussi la deuxième mission de cette équipe est d'évaluer la situation humanitaire, les vrais besoins de la communauté. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et
donc vous êtes encore au niveau d'évaluation?
Oui, on a fait une première intervention médicale auprès des centres de santé dans le coin pour pouvoir prendre en charge tous les malades et les blessés. Et, enfin, les rescapés de la catastrophe, mais aussi inventorier la situation, avoir les statistiques exactes et inventorier les besoins de la communauté. Bon, le premier besoin, c'est d'abord le logement, les abris, parce que, comme disait l'autre intervenant, ils sont en train de vivre dans une situation de précarité énorme où les rescapés se sont réfugiés dans les familles, aux environs des villages qui sont encore accessibles. Mais aussi la recherche des corps et des cadavres et probablement de certains rescapés est toujours en cours. Donc nous avons fait une intervention sur le plan de vue de la santé et aussi avec quelques tonnes de vivres. Il y a aussi la délégation du gouvernement central qui a été accompagnée par ceux de la province qui ont apporté une aide à la population sinistrée avec de la nourriture et des espèces. On a donné, je pense, l'équivalent de $1,000 par famille rescapée pour le moment. Alors, voilà un peu ce qui a été fait jusque à ce jour.
Vous avez des équipes sur place à Calais?
Affirmatif, ils sont à Calais pour le moment, en train d'aider à la recherche des survivants, mais aussi évaluer les besoins à venir pour une intervention qui est probablement prévue soit la semaine prochaine ou la semaine après. Le temps de réunir les moyens qu'il faut pour ça.
Vous allez rester en ligne. On va prendre un auditeur qui nous appelle de Bukavu très rapidement. Puis on revient vers vous.
Robert Bahome de Bukavu, au sud de Kivu. La situation humanitaire des habitants de Calais continue à s'empirer depuis la survenance des inondations qui ont frappé plusieurs villages dans cette partie du sud de Kivu. Il faut s'en occuper sérieusement. Pour ce faire, cette situation étant bien connue, je pense que le gouvernement congolais devrait désormais s'attaquer réellement à ses causes profondes plutôt que de s'attaquer à ses effets comme par le passé, sans quoi on ne ferait que tournoyer par rapport à cette situation.
Alors, les humanitaires sont sur terrain, Monsieur Nkoji. Cet auditeur, pas seulement lui, et même ceux qui sont sur place, pensent que la situation est en train de s'empirer malgré toutes ces interventions. Est-ce que ça veut dire que ces interventions ne sont pas efficaces?
Ce sont des interventions efficaces à court terme pour d'abord sauver des vies, pour ceux qui, pour que les rescapés ne puissent pas encore se retrouver en situation plus délicate que celle qu'elles ont maintenant. Ça, c'est la première chose, donc ce qu'on appelle la première intervention. Mais c'est vrai que, en réfléchissant, il doit y avoir des interventions plus ciblées et plus élargies pour permettre à ce que cette situation ne se répète pas. Parce que, comme vous le savez, c'est pas la première fois que cela se passe. village sinistré se trouve au bas-fond des collines. Et à chaque fois qu'il y a une forte pluie, il y a de la boue et des pierres qui descendent de ces montagnes pour pouvoir, qui détruisent les maisons, les boues ensevelissent les maisons et les personnes. Donc, à long terme, l'idée, la meilleure solution, la meilleure intervention serait de délocaliser ces populations et reboiser ces montagnes-là pour que ces terres-là ne puissent plus, ces éboulements ne puissent plus s'effectuer.
Les interventions qui se font sur place sont-elles coordonnées ou c'est chaque ONG, chaque association qui vient et qui fait ce qu'elle peut? Comment ça se passe concrètement sur place, sur terrain?
Les interventions sont coordonnées parce que la première équipe qui est partie lundi, des humanitaires, ils font partie du CECONAT, qui est une coordination des ONG nationales, et du CONAFOT en général, qui est une plateforme nationale qui coordonne ces activités-là. Mais il y a aussi OCHA, qui est arrivé depuis mercredi et qui a pris maintenant en main la coordination de ces interventions-là, accompagnée par les autorités locales et provinciales.
Delphine Birimbi, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Chabunda, au sud Kivu.
Maître Davidi Masandi Chabani, depuis Chabunda, au sud Kivu. Le gouvernement congolais s'abstient de donner les vrais bilans. Pour quelles raisons? Il est vrai, la société civile qui connaît la perte énorme de la population soit atteinte d'émotion. La grande partie des rescapés n'a pas encore reçu l'assistance du gouvernement congolais. La permanence de la distribution de cette aide gouvernementale est indispensable. Vu ce drame, nous attendons encore une épidémie qui va rajouter le nombre de morts. Or, c'est le moment pour un gouvernement sérieux d'en prévenir. Désolé, il faut attendre le pire pour agir.
Delphine Birimbi.
Oui, madame. Je viens de bien suivre M. David de Chabunda pour son intervention. Mais je veux vous dire, madame, et je veux dire à M. David que nous, nous sommes sur le terrain. Et donc, pour toute question de cette catastrophe, on ne doit pas écouter les gens qui sont ailleurs, comme je le disais. Ils sont assis dans leur maison, en train de regarder les télé, ainsi de suite, et donner des informations. Nous, nous sommes sur le terrain, et s'il y a des informations à demander, il faut qu'on s'adresse à nous. Il y a les autorités qui sont sur le terrain, et ce sont les autorités coutumières, l'autorité politico-administrative. Et nous sommes en train de travailler conjointement avec les autorités et toute la population d'une manière générale. C'est pourquoi je vous ai dit que nous, nous sommes en train d'encourager le gouvernement, puisqu'au moins, depuis qu'on a connu la catastrophe jusqu'à maintenant, on a reçu la délégation du gouvernement provincial, composée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud-Kivu. On a reçu la délégation du gouvernement central, composée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, les trois ministres que j'avais déjà cités, et ils ont amené l'aide du gouvernement central, ainsi que le gouvernement provincial avait déjà aussi amené son aide. Et donc, ce qui est sur le terrain, madame, nécessite l'implication et ou la mobilisation de tout le monde, et non des critiques sur des raisons sociaux, dire que non, voilà, celui-ci devrait faire ceci. Non, nous demandons à tout le monde de nous emboîter les pas pour essayer de résoudre pas mal les problèmes qui guettent maintenant, présentement, les différentes populations du territoire de Calais, précisément dans les villages de Bushushu, à Chabondo, Kabushungu et Nyamukubi, ainsi que dans les autres axes, comme je l'ai dit, sur l'axe Nyabibwe, Nyamasasa, Mukuja, Minova, Ziralo, Kalonge, jusqu'à Bunyakiri. Et donc, nous avons besoin des interventions de tout un chacun pour que le territoire de Calais puisse sortir dans ce drame humanitaire que nous venons de connaître.
Piero Koji, la zone de santé de Calais est endémique au choléra. Avec cette catastrophe, il y a vraiment risque d'épidémie. Comment on peut éviter que cela puisse arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter c'est le risque d'épidémie?
Des actions avaient déjà été menées dans le temps pour pouvoir endiguer cette situation. Et pour le moment aussi, nous sommes en train de mener des actions dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. parce que les populations sont en train d'utiliser encore l'eau du lac pour pouvoir avoir suffisamment d'eau. Et donc, ce que nous faisons en ce moment, c'est de leur donner des produits pour désinfecter ou pour rendre l'eau plus potable, pour que le choléra ne puisse pas continuer à s'épandre dans la zone. Mais comme vous le dites, à long terme, quand on aura déplacé les populations ou quand nous viendrons pour intervenir, on va mettre en place un système d'approvisionnement d'eau et cette eau sera traitée pour éviter que le choléra ne puisse continuer à s'étendre dans cette communauté.
Delphin Birimbi, je rappelle que vous êtes président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais au sud de Kivu. Dans le court terme, qu'est-ce qui devrait se faire très rapidement pour soulager cette population?
Rapidement, madame, les projets à court terme et où le projet urgent, c'est d'abord la réhabilitation des routes, comme je venais de le dire, la réhabilitation des sources d'eau potable pour essayer de résoudre les problèmes de maladies hydriques, mais aussi la dotation des bâches pour essayer de contribuer à ce que les sinistrés aient des abris provisoires où ils pourront s'abriter en attendant la solution définitive à la question de leur délocalisation par le gouvernement central. Et la prise en charge des orphelins. Madame, nous avons plusieurs orphelins qui venaient d'être laissés par leurs parents, dont les mères et les pères, tous sont morts. Et donc, nous demandons également que cette question soit prise en charge par le gouvernement et par certains partenaires du gouvernement congolais. Et nous avons également demandé, vous connaissez qu'il y a des infrastructures, ce sont des bases qui ont été supprimées, à l'occurrence des écoles, pendant que nous sommes dans l'année scolaire. Et donc, il fallait que le gouvernement, avec ses différents partenaires, puisse voir dans les mesures du possible comment construire d'une manière urgente les différentes écoles où les écoliers et élèves pourront s'abriter pour essayer de finir cette année, au lieu que cette année soit une année blanche pour ces écoliers. Mais également, nous avons demandé que la prise en charge effective des blessés qui sont dans des structures sanitaires délocalisées où on n'a pas payé la facture, on puisse voir comment ils pourront également être pris en charge pour que ces déplacés puissent aussi être pris en charge par le gouvernement. Mais aujourd'hui, vous savez, madame, que nous avons la question des volontaires. Nous avons plusieurs volontaires qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider. Ils n'ont rien sur le terrain, mais au moins ils font bien leur travail avec l'appui de la population. C'est pourquoi également dans le cadre d'urgence et pour essayer de les encourager, de continuer à nous aider à repêcher les corps, nous sommes en train de solliciter à tout un chacun, que ce soit auprès du gouvernement, que ce soit auprès des hommes de bonne volonté ou des humanitaires, d'essayer de prendre en charge ces jeunes volontaires qui sont en train de travailler sur le terrain d'une manière urgente pour que les corps puissent être repêchés. Vous comprendrez, madame, que avec la grande partie des corps qui est toujours embrouvé dans le sol, ça va créer une maladie sur le terrain et que les gens pourront mourir d'un moment à l'autre. C'est pourquoi la prise en charge de ces gens, pour essayer de continuer avec le même travail, pourrait être un élément nécessaire d'une manière urgente. Mais également, merci. Madame,
ça nous sera avons votre demandé conclusion.
La conclusion, madame, nous encourageons le gouvernement et nous demandons au gouvernement d'éviter certaines irrégularités, de continuer à prendre ses responsabilités pour que cette population puisse sortir dans cette catastrophe et que nous appelons tout le monde de ne pas continuer à agir au nom de la société civile pour salir les acteurs de la société civile que nous sommes.
Merci.
Pour éviter de vilipender l'image de la société civile.
Merci Delphin Birimbi, Vital Mouini Banoué Suizé, vous êtes deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, oui. Vous êtes élu de Calais, vous avez fait partie de la délégation gouvernementale qui s'est rendue dans ce territoire mardi dernier. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour éviter ce genre de catastrophe, ce genre de drame à l'avenir?
Madame, en synthèse, je suis content, les autres ont déjà parlé des solutions provisoires, tout ce qui est humanitaire, me paraît provisoire. Et ça va passer. Mais je focalise beaucoup plus sur les causes du drame. de l'hécatombe que nous avons connue, et je préconise par rapport, parce que je vous ai dit, la vraie cause et la première sur le déboisement systématique de ce qu'on a vécu là-bas. La solution est claire, c'est seulement rebraser. Aussi, je vous ai dit, on coupe, là, il y a 6000 sacs de braise qui sortent de Calais chaque mois. Fois 12 mois, ça fait combien? 6000 sacs, ça signifie, tout ce qu'on, comme solution, madame, c'est question, de penser à d'autres énergies renouvelables. Par exemple, nous avons des rivières, nous avons des chutes d'eau, nous avons les soleils pour produire du courant, pour que désormais les gens ne coupent plus les bois pour la chauffe. Autre solution, je l'ai dit, les techniques culturales sur les collines ne sont pas connues. Je demande à ces ONG, aux partenaires gouvernementaux, de focaliser pour que les gens cultivent de manière saine, c'est avec les brûlis, les forêts, tout ça. Il faut finir avec. Aussi, une autre cause, c'est la surpopulation, on n'en a pas parlé ici, madame. Vous savez, les gens étaient moins nombreux sur ce site-là, dans ce coin là-bas. Mais aujourd'hui, la propagation, il y a une démographie galopante. Et sur le site, Dieu ne crée plus la terre. Dieu a créé une seule fois la terre. Mais les hommes, on en crée tout le temps. Ça signifie qu'il y a cette surpopulation sur ce site-là. Carrément, vous voyez où est-ce qu'on en est. Aussi de la construction sur des sites impropres. Et là, j'appelle au gouvernement d'éviter que les gens construisent sur les sites impropres. Et dans ces conditions-là, j'aimerais au gouvernement même utiliser la police des moyens coercitifs pour empêcher aux gens de construire sur des sites impropres où la mort peut facilement les trouver. Voilà ce que j'ai pu dire, madame, par rapport aux solutions.
Merci Vital Mouhini Pierron-Kogi, chef de bureau de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. C'est une ONG qui collabore avec le HCR dans le domaine humanitaire. Vous intervenez aussi à Calais. Quelles pourraient être, selon vous, les solutions à court terme pour aider cette population de Calais?
Merci madame. Vous parlez des solutions à court terme, c'est bien ça?
Oui, monsieur Kogi.
Oui, les solutions à court terme, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord d'assainir le milieu où la catastrophe s'est passée pour éviter que des épidémies puissent intervenir par rapport au choléra, mais aussi à la décomposition des corps et des animaux, comme l'a dit mon prédécesseur. Aussi, c'est de créer ou de construire des abris provisoires dans des milieux sains pour les rescapés qui ont survécu à cette catastrophe. Mais à long terme, il faudrait les délocaliser en leur donnant par le gouvernement un bon site où ils pourront construire des maisons dans un lieu vivable, mais aussi reboiser ces montagnes et cette partie de Calais pour éviter à ce que ces éboulements ne se répètent encore une fois de plus. Et une prise en charge immédiate de tous les cas sur le plan de vue de la santé, de l'éducation, mais aussi de la protection des citoyens.
Merci Monsieur Pierrot Kogi, Dialogue Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.